Georges Dumézil est le maître incontesté des études indo-européennes dans le monde. Or, ce sont les indo-européens, nos plus lointains ancêtres, qui ont donné naissance, depuis 5000 ans, aux civilisations grecques et romaines, iraniennes et indiennes, celtiques, germaniques, baltiques et slaves. Et, chose étonnante, ces civilisations ont engendré des religions diverses qui ont des points communs évidents. Mais, affirme Georges Dumézil, la religion chrétienne est à part. Elle est franchement différente. Ajoutons enfin que la presque totalité des langues parlées aujourd'hui en Europe et dans les Amériques dérive d'un indo-européen commun que Georges Dumézil a reconstruit. Il maîtrise lui-même plus de 40 langues vivantes ou disparues. Il s'en explique chez lui, à Paris, avec Marcel Brisebois.
Georges Dumézil, on parle de langues indo-européennes, on parle de peuples indo-européens. Qui sont les indo-européens?
Mais la notion d'indo-européen est essentiellement une notion linguistique. On a repéré à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe que des langues dont on ne connaissait pas les rapports étaient en réalité des langues sœurs. Bon, avec des tâtonnements, on est arrivé à déterminer une famille de langues qui, évidemment, dérivent d'une langue commune. Comme les langues extrêmes, géographiquement, de ce groupe sont les langues, certaines langues, la plupart des langues de l'Inde, et puis à l'extrême, les langues celtiques qui touchent l'océan, on a inventé cette expression qui, au fond, n'est pas mauvaise, car étant purement géographique, elle n'engage pas les grandes questions, on les a appelés des Indo-Européens. À un certain moment, on les a appelés les langues ariennes, mais c'est injustifié. Les Ariens, les Arias, c'est le nom que se donnaient particulièrement et pour se reconnaître entre eux, les Indo-Iraniens, les Indiens et les Iraniens. Les uns et les autres s'appelaient Ariens, et c'est encore le mot que vous avez dans le nom de l'Iran. Mmh. Mais alors étendre ce mot Arien à l'ensemble du monde indo-européen, même abstraction au fait de toutes les conséquences politiques et dramatiques que ça a pu avoir, c'est une erreur. Il vaut mieux garder le mot indo-européen, qui est un terme presque algébrique pour désigner ces langues. Maintenant, peuples indo-européens, l'expression n'a de sens que si on la développe en disant peuple parlant des langues pour l'essentiel dérivé de la même langue commune qui était cet indo-européen préhistorique.
Donc c'est pas une race.
Ce n'est pas une race.
C'était quand même des peuples apparentés.
C'était des peuples apparentés par la langue, par la civilisation, par ce que j'appelle l'idéologie, mais dont on ne peut absolument pas savoir quelle était l'origine sanguine, puisque maintenant c'est par le sang qu'on définit les races. Il faut se dire que nous remontons à peut-être jusqu'au début du 3e millénaire avant notre ère, ou à la fin du 4e millénaire. Et qu'est-ce que c'est que 6000, 7000 ans dans l'histoire d'une humanité qui en a traversé des centaines de mille? Alors, il y a eu des mélanges, il n'y a pas cessé d'avoir des mélanges, et en particulier quand tous ces peuples étaient plus ou moins mobiles, avant de se fixer dans leurs derniers habitats, ils ont beaucoup circulé. Ils se sont croisés avec qui? Quels peuples ont-ils absorbé, détruit, tout en en assimilant une partie? Nous n'en savons rien.
Vous venez de les situer dans le temps, 6e, 7e millénaire.
Pas avant notre. Avant Jésus-Christ, disons au maximum 4000. 3000, et encore là, c'est une hypothèse. Les plus anciens témoignages que nous connaissons de peuples indo-européens, c'est du milieu du deuxième millénaire. Mais à ce moment-là, ils présentent entre eux, tout en gardant de grosses ressemblances, ils présentent entre eux de telles différences qu'il y a eu certainement des siècles d'évolution. C'est pourquoi je parle du troisième millénaire.
Oui.
Je parle de la fin du quatrième, parce que certaines personnes pensent qu'on peut remonter jusque-là. Moi, ça m'est égal, ça ne m'intéresse pas.
Est-ce qu'on peut les situer dans l'espace, si on les situe dans le temps?
On a essayé souvent, mais les critères sont très, très, très incertains. On s'est servi en particulier de noms d'arbres, mais les noms d'arbres passent facilement d'une espèce à une autre. On garde le nom et on l'applique à un arbre qui se trouve dans le nouvel habitat, n'est-ce pas? Des raisons convergentes donnent à penser que l'ensemble de ce qui est devenu les peuples indo-européens habitait le sud-est de l'Europe, quelque part, enfin si vous voulez, dans la steppe du sud de la Russie, ou entre l'Ukraine et la mer Caspienne.
Oui.
Mais ils étaient mobiles, n'est-ce pas ?
Mmh. Ils se déplaçaient.
Comme se sont déplacés par la suite les gens qui ont occupé la même place et qui étaient une partie d'entre eux, les Scythes. Mmh. Les Scythes étaient en grande partie nomades. Ils ne se stabilisaient que sur les côtes de la mer Noire.
Est-ce que ces peuples-là se savaient apparentés ?
Oui et non. Je vous parlais tout à l'heure des Aryas. Eh bien, tous les royaumes indiens, jusqu'au Moyen-Âge, on peut dire même jusqu'à l'arrivée des Européens, savaient qu'ils étaient des Aryas et qu'ils avaient en commun une certaine civilisation. Ils se définissaient par opposition aux barbares, aux Darsa, par exemple, dans le Rig Veda. Mais à l'intérieur du monde indien. Mais quand les Grecs ont rencontré les Indiens, ils n'ont pas fait la réflexion qu'il y avait des curieuses correspondances entre leurs langues.
Cette parenté donc leur a totalement échappé.
Cette parenté leur a échappé. Même leur rapport avec les Romains. Les rapports du latin et du grec sont moins clairs, moins évidents que ceux du sanskrit et du latin. Et du grec, pardon. Mais les Romains et les Grecs n'ont pas fait réflexion qu'ils étaient plus proches les uns des autres que, par exemple, les Romains et les Étrusques. L'Étrusque est une langue qu'on ne déchiffre pas, mais on voit bien que, en grande partie, au moins, elle n'est pas indo-européenne. Ben, les Romains la sentaient étrangère et le grec étranger.
Comme peut-être à une certaine époque, les Français et les Allemands se sont sentis totalement étrangers.
C'est ça, c'est encore maintenant, n'est-ce pas ? Ouais. On étonne beaucoup de gens. Ils admettent que l'italien, l'espagnol soient apparentés aux Français.
Ce sont les latins.
Mais que tout ça soit apparenté au monde germanique, il faut une démonstration. Et alors si on fait intervenir les Slaves, ça étonne encore plus les gens, n'est-ce pas ?
Alors comment les connaître ? Nous en parlons comme si ça allait de soi, mais comment peut-on les connaître, ces Indo-Européens ?
Par la comparaison. Le travail, la méthode, le type de méthode tout au moins, a été mis au point à travers tout le 19e siècle. On a comparé les langues et on est arrivé à déterminer des correspondances en très grand nombre, régulières, à déterminer tout un vocabulaire. Des gens se sont même amusés à la fin du 19e siècle à écrire des fables en indo-européen. Naturellement, les indo-européens ne les auraient pas comprises. Mais on est arrivé par la linguistique à une connaissance, on peut dire, précise de la langue commune, ou plus exactement des dialectes qui, probablement dès ce moment-là, dès l'origine, c'était pas une langue unitaire, il n'y avait pas d'académie indo-européenne pour fixer la norme. Mais il y avait des gens qui se comprenaient, qui s'entrecomprenaient facilement. Mmh. Bon, si les plus extrêmes allaient de l'Est à l'Ouest, par exemple, il leur fallait peut-être une quinzaine de jours ou un mois, comme dans les anciens dialectes français. Quand nous allons en Wallonie, ben, il faut une petite semaine pour se mettre au point, pour comprendre la manière dont ils parlent. Et probablement pour certains Canadiens, ça doit être un peu la même chose. Mais alors, il devait y avoir une unité, mais une unité comportant quand même un grand nombre de variétés qui, elles, après la dislocation du monde européen, sont devenues des langues.
Donc vous comparez des langues, vous comparez des vocabulaires, vous comparez
des mots. C'est ça,
alors
c'est ça que le 19e siècle a fait.
Oui.
Et dès le début, des gens se sont dit... les peuples qui parlent des langues si proches ne peuvent pas ne pas avoir en commun autre chose que la langue, c'est-à-dire de la pensée. De la pensée exprimée dans de la littérature, dans de la religion, dans des institutions. Et on a essayé, mais enfin par des moyens qui à ce moment-là n'étaient pas au point. Alors j'ai repris avec quelques autres, je ne suis pas seul du tout, au début de ce siècle, vers 1920, nous avons repris la question, mais alors avec les armes que l'ethnographie, les progrès des sciences sociales fournissaient. Et effectivement, après beaucoup de tâtonnements, nous sommes tombés sur des structures de pensée communes sinon tout l'ensemble de la famille, du moins à des parties très, très considérables de l'ensemble indo-européen.
Vous venez d'employer un mot qui quand même prête à ambiguïté, et je pense que vous avez voulu à un certain moment donné préciser votre position là-dessus. Vous avez employé le mot structure. Est-ce oui. dire que pour autant que vous êtes un des ancêtres, ou un des oui. précurseurs du structuralisme?
Mais ce n'est pas un précurseur, je suis... Il y a toujours des chicanes parce que des gens vous interprètent mal. Alors on est soi-même amené à rectifier et rectifier à l'excès. Mais avec du recul, je pense que vous faites allusion à la préface d'un des mythes et épopées, je me dirais structuraliste. Mais peut-être pas au sens où Lévi-Strauss l'emploie, n'est-ce pas ? Lévi-Strauss est plus philosophe que moi et il y a une interprétation vraiment philosophique chez lui que moi je m'interdis. J'appelle structure simplement... j'ai hésité longtemps autrefois entre le mot système et le mot structure. Et c'est un jeune philosophe qui travaillait avec moi, qui est mort maintenant, Goldschmidt, qui m'a dit non, n'employez pas système. Parce que le système, c'est artificiel. Un système se forme, tandis que vous constatez une structure que vous ne formez pas, mais que... J'aurais dû lui répondre que le système solaire non plus, j'aurais pu employer le mot système. Ouais. Mais enfin, j'ai employé le mot structure.
Mais est-ce que vous pourriez nous dire comment vous procédez de façon concrète? Vous nous parlez d'une méthode d'une façon, je dirais, un peu abstraite. Comment vous faites pour comparer les mots, des mythes, etc.?
Les mots, je ne les compare pratiquement, je ne les compare pas, n'est-ce pas? Dans les débuts, je me suis mis dans les pas des linguistes, mais très rapidement, c'est la même méthode, mais avec tout de même des particularités quand il s'agit de mythes et non pas de sons. Les sons, c'est presque mathématique. Les mythes vous échappent de partout.
Qu'est-ce que c'est qu'un mythe, au fait?
Un mythe, c'est avant tout un récit. Mais c'est un récit commun à un grand nombre de personnes, un récit admis, et qui aide, disons, une société à comprendre, à justifier les idées d'une part et les pratiques d'autre part dont elle vit. Une société organisée, si peu organisée soit-elle, doit avoir en commun un certain nombre de conduites et un certain nombre de représentations, un certain nombre de certitudes. Et le mythe est, à très peu d'exceptions près, jamais une définition du mythe ne sera exhaustive, mais enfin on peut dire que l'immense majorité des mythes a pour fonction de justifier aux yeux de la société elle-même ses conduites et ses idées.
Ce qui veut dire, si je vous comprends bien, que finalement, malgré qu'on s'en défende, notre société devrait avoir également des mythes.
Mais certainement, elle en a. Certainement, il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher sans faire mal.
Donc quand on met en doute un mythe, actuellement dans notre société, quand on dit « oh ben c'est un mythe et ça ne veut rien dire ».
Ah oui, mais alors là, n'est-ce pas, c'est un autre sens du mot mythe. Le mythe signifie la fiction en pareil cas. Alors ça s'oppose à réel. Moi je dis qu'un mythe peut être très bien un événement réel, mais alors en pareil cas il est presque toujours enjolivé. Mais un événement réel qui est à l'origine de quelque chose d'important dans l'actualité sociale.
Mais pour comprendre, est-ce que vous pourriez me donner un exemple?
Je pense immédiatement, on pense au 14 juillet, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à la Bastille? Probablement des choses pas très belles. Il y avait quelques invalides qui gardaient la forteresse. Il y avait un gouverneur qui était un brave homme. On a décapité le gouverneur, on a massacré les gardes, on a démoli la Bastille. En soi, c'est pas un événement extraordinaire, mais alors c'est le début de la Révolution française, et la Révolution française, pour le bien ou pour le mal, à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est devenu la grande chose de l'histoire de France, et on parle encore des grands ancêtres.
Comment les mythes se conservent-ils? Comment se perpétuent-ils?
De génération en génération, on se les transmet, n'est-ce pas? Nous voyons ça aujourd'hui avec les partis politiques. Les partis politiques continuent avec des renouvellements, mais enfin de génération en génération, on se transmet les grands idéaux et les grands principes. Ce qu'il faudrait se demander, c'est plutôt comment ils disparaissent.
Et qu'est-ce que vous répondriez à cette question?
Rien, les accidents de l'histoire. Je ne connais que des cas particuliers. À Rome, par exemple, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, mais Rome a eu certainement, avant de connaître la Grèce, a eu une mythologie, puis elle l'a abandonnée. Alors là, on voit très bien pourquoi, c'est parce qu'elle a été, soufflée, bluffée par la beauté de la mythologie grecque. Alors, dans la mesure où ils ont conservé leur nom de dieu, ils ont voulu que ce soit les dieux grecs sous un autre nom. N'est-ce pas ? Jupiter, qui n'avait probablement que des rapports lointains avec Zeus dans la conception romaine, est devenu Zeus. Minerve, qui n'était qu'une patronne des métiers, a trouvé dans Athéna, grecque, qui entre autres choses, était la déesse protectrice des métiers, a trouvé une correspondance. Et alors toute Athéna s'est vidée dans Minerve. Alors c'est comme ça que la mythologie latine a pratiquement disparu.
Et quel rôle les rites exercent-ils à l'égard des mythes ?
Bien, une grande partie, je disais tout à l'heure que les mythes avaient pour fonction de justifier des conduites et des idées. Bien, parmi les conduites importantes pour la cohésion sociale, pour la sécurité des individus et de la société, sont les rites, et les rites périodiques en particulier. Eh bien, il y a toute une catégorie de mythes, et c'est peut-être les plus nombreux, qui sont destinés à expliquer pourquoi on fait ça tel jour de l'année, quel est le fondateur, ou bien comment c'est arrivé. Et alors là, c'est une histoire. Et quelquefois, c'est une histoire authentique, quand les Romains s'abstenaient de faire quelque chose, car il y a des rites négatifs, n'est-ce pas ? Quand ils s'abstenaient de commencer quelque chose à l'anniversaire de la bataille de l'Allia, ben la bataille de l'Allia était leur mythe. Un mythe historique. Mais quand ils célébraient les Lupercales, quand ils célébraient les fêtes de Vulcain, il n'y avait pas de fondateur, il n'y avait pas d'origine. Et alors il y avait des histoires qui justifiaient leurs actes.
Comment expliquez-vous que ce qui est considéré chez les uns comme événement historique soit considéré chez les autres comme purement mythique ?
Ben, le cas extrême est précisément Rome, où la mythologie a disparu, mais où, je ne dirais pas que la mythologie s'est transformée en histoire, il m'est arrivé de le dire pour être bref, mais où une expression historique peut-être déjà contemporaine de l'expression mythique a survécu alors que l'autre ne survivait pas. Il est très possible que cette idéologie, nous tournons autour du pot, mais il s'agit des trois fonctions essentiellement. Eh bien, cette idéologie a survécu dans la théologie d'une part, mais pas dans la mythologie, parce que la mythologie est morte. Les Romains ne savaient pas ce qu'avait fait Jupiter. Les Romains ne savaient pas ce qu'avait fait Quirinus. Ou alors, quand ils l'ont su, c'est devenu de l'histoire. Quirinus a été assimilé à Romulus, on lui a donné Mars pour père, il a agi sous la protection de Jupiter, mais c'est ça qui a intéressé les Romains.
Ouais. Prenons un autre exemple, celui du Manchot et du Borg. Oui. L'histoire du Manchot et du Borg, considéré comme événement historique chez les Romains, et considéré comme mythique chez les Scandinaves.
C'est ça. Petite rectification, chez les Scandinaves, il n'y avait pas de distinction aussi nette que nous sommes en train de le faire, et que probablement les Romains le faisaient, entre la mythologie et l'histoire. Quand Snorri raconte l'histoire du Manchot, l'histoire du dieu qui met sa main dans la gueule du loup Fenrir pour garantir un mensonge, pour l'obliger à croire à un mensonge, il présente ça dans le temps. C'est une histoire mythique, à laquelle il ne croit pas probablement, puisqu'il est bon chrétien, mais qui est située dans le temps. Le dieu Odin est le premier roi, et après lui est venu le dieu Njord, et puis le troisième roi était le dieu Freyr. Un peu comme dans l'histoire romaine. Alors pour en revenir au Borgne, chez les Germains, c'est malgré tout un être qui est considéré comme un dieu, le dieu Tyr, à la fois du droit et de la guerre, mais des aspects juridiques de la guerre, et puis quand même un personnage historique, d'une histoire bizarre, mais enfin d'une histoire. Chez les Germains, les deux sont conservés, tandis qu'à Rome, il n'y a que le Borgne et le Manchot, c'est Horatius Coclès et Mucius Scaevola qui sont insérés dans l'histoire romaine. sans qu'on ait le droit de dire qu'il y a un dieu derrière.
Vous avez dit tout à l'heure, nous tournons autour du pot, et effectivement, il faut saisir le pot. Toutes ces études sur la de comparative vous ont amené à poser ce qu'on appelait la théorie des trois fonctions. Et je me dis, enfin bêtement, en quoi cela est-il quelque chose d'extraordinaire, quoi. Quelle est cette découverte? Puisque il me semble que si je raisonne très simplement, oui, j'ai trois fonctions chez moi. La fonction, disons, exercée par le cerveau, la fonction exercée par les muscles et la fonction exercée
par
l'estomac. Alors, qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que c'est que cette idéologie tripartite? En quoi cela, tout à coup, devient-il différent des réalités vécues?
Eh bien, c'est une chose, et en effet, vous avez parfaitement raison de le souligner, c'est une chose universelle que l'exercice des trois fonctions. Si on ouvre les yeux, on constate que n'importe quel peuple a ou des savants, ou des prêtres qui lui expliquent le monde, ou en tout cas un organe directeur. Tout peuple doit être capable de se défendre, et puis s'il est un peu ancien, d'attaquer. Et tout peuple doit manger, doit se reproduire et doit vivre autant que possible dans une paix prospère.
Alors, première fonction, la fonction de majesté.
La fonction de souveraineté, j'appelle ça la souveraineté, mais en effet, les mots, il faut les faire éclater, oui, pour que ça couvre tout, n'est-ce pas? De souveraineté magique d'une part et juridique de l'autre, avec le pouvoir. Hein. Et puis la deuxième, c'est la force physique, mais principalement orientée vers les actions militaires, les actions guerrières. Et la troisième, c'est très difficile de lui trouver un centre, mais cette quantité de choses qui sont inséparables. On peut dire, par exemple, ce sera la fécondité avec toutes ses conditions et avec toutes ses conséquences. C'est-à-dire, entre autres, la paix pour les conditions. Et puis les conséquences, ce sera le grand nombre, ce sera l'abondance des biens matériels, mais l'abondance des hommes aussi.
Ce sera aussi la beauté.
Ce sera la beauté, parce que la beauté favorise l'engendrement. Enfin, c'est toujours un peu érotique, la beauté de troisième fonction. Mais c'est ça, ce sont ces trois choses. Eh bien, elles sont partout. Mais il y a un très petit nombre de peuples, de sociétés dans le monde qui ont pris conscience de cette nécessité, de cette structure naturelle, pour en faire, pour la transfigurer, pour en faire le cadre général de leur pensée, en l'appliquant à toute chose. Voyons trois espèces d'arbres, ils disent, ben là, celui-là est plutôt souverain, celui-là est plutôt guerrier, celui-là est plutôt de l'ordre de la prospérité. Les Indiens sont allés très loin dans cette voie. Dans certains rituels, on fera un certain nombre de pas si on est de la première fonction, un nombre moindre si on est de la deuxième, et un nombre moindre encore si on est de la troisième. Quelquefois, c'est l'inverse, n'est-ce pas ?
C'est une organisation
de toute la vie, de la pensée.
C'est pourquoi vous parlez d'idéologie.
C'est ça, c'est ce que j'appelle l'idéologie. Le mot a tellement de sens que peut-être il n'est pas bien choisi, mais moi je dis idéologie comme on dit théologie, comme on dit mythologie. Qu'est-ce que c'est que la théologie? C'est l'ensemble de ce qu'on a à dire sur les dieux. La mythologie, c'est l'ensemble des mythes. L'idéologie, c'est l'ensemble des idées directrices d'une société. Et morale et autres, n'est-ce pas? Et alors elle a des cadres, cette idéologie. Ils ne peuvent pas penser dans l'incohérence.
Est-ce qu'il y a équilibre entre les trois fonctions?
Mais tout est question de lieu, n'est-ce pas? Il y a des sociétés, prenez la société typique, c'est la société indienne, il y a les deux grandes classes, mais qui sont bien séparées les unes des autres. Les brahmanes ne sont pas des kshatriyas et les kshatriyas ne sont pas des brahmanes, mais ils se sentent solidaires par rapport au troisième, par rapport au vaishya. Mais à côté de ça, vous avez des rituels dans lesquels les vaishyas et les kshatriyas jouent des rôles solidaires par opposition à la première fonction. Dans la consécration royale des Indiens, il y a une course de chars, par exemple, dans laquelle, qui est truquée, enfin, d'avance, c'est le roi qui la gagnera. Le roi est dans un chariot et il court avec à côté de lui un char dans lequel il y a ou un kshatriya ou un vaishya. Et naturellement, c'est lui qui arrive le premier, ce qui assure sa supériorité. Et alors, que font les brahmanes pendant ce temps-là? Les brahmanes sont à l'écart, Et ils font tourner, il faut bien, puisqu'il y a une course de chars, il faut bien qu'ils fassent quelque chose qui y ressemble. Ils ont une roue horizontale qu'ils font tourner, n'est-ce pas ? Mais ils ne sont pas pris dans la course.
Mmh. Mais il peut y avoir donc aussi des gauchissements, par exemple.
Mais il y a des gauchissements, bien entendu.
Je pense à la société germaine, par exemple, où il semblerait
que... La société scandinave, oui. C'est ça. Dans la société scandinave, il n'y a pas cette distinction entre la souveraineté religieuse, magique et juridique, la force guerrière, la fonction militaire et la fonction de fécondité. La fonction de fécondité est très claire, elle est occupée par les dieux Varnes, les dieux Freyr. Mais il y a eu comme une espèce d'hypertrophie de l'idéologie guerrière chez les Germains, et si bien que le dieu, le véritable dieu combattant, le dieu gouverneur des batailles, le dieu qui donne la victoire, c'est Odin, c'est-à-dire le dieu souverain. Alors la fonction de force n'est plus que la fonction guerrière, c'est la fonction de force physique, elle appartient au deuxième dieu. Le deuxième niveau n'a pas été vidé de son contenu, mais il n'a pas été orienté sur la guerre, il a été orienté sur des exploits par un être monstrueux, une espèce d'Hercule, qui était le dieu Thor. Et alors la guerre a pénétré dans le premier niveau. Non seulement Odin, mais ce qui est plus remarquable, c'est le dieu Tyr. Dans le monde indo-européen, il y a une double, en général, il y a une double souveraineté. À Rome, ce sera Jupiter, et puis un dieu très effacé, mais qui a été très important, qui était Deus Fidius. Et qui était suffisamment important pour que le flamine correspondant à Jupiter soit pas le flamine de Jupiter, mais le flamine de Deus, Dialis. N'est-ce pas ? C'est pas un flamen Jovialis, c'est un flamen Dialis.
Georges Dumézil, je vous remercie.
Rappelons que Georges Dumézil, l'un des plus grands historiens du monde, a publié de nombreux ouvrages, dont surtout Mythes et épopées, en 3 volumes, Fêtes romaines d'été et d'automne, et Idées romaines, tous parus chez Gallimard, et aussi Romans de City et d'Alentour, et Mariage indo-européen chez Payot.